Si ce podcast de Ciel et Espace vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou en le notant sur votre application d'écoute préférée. Retrouvez toutes les actualités du cosmos sur ciel-et-espace.fr.
Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Ce sont les mesures les plus précises réalisées sur la première lumière de l'univers depuis celle du satellite Planck il y a près de 15 ans. En novembre dernier, dans le Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, les chercheurs de la collaboration ACT ont publié les ultimes analyses de leurs observations du fond diffus cosmologique menées entre 2017 et 2022 avec leur radiotélescope perché sur un haut plateau des Andes. Résultat, non seulement les données de ACT confirment le taux d'expansion de l'univers mesuré par Planck, qui, rappelons-le, ne correspond pas au taux d'expansion mesuré avec d'autres méthodes, mais elles permettent en plus d'éliminer plusieurs modèles théoriques qui avaient été proposés pour surmonter ce problème. Alors, dans quelle situation exactement se trouve la cosmologie après ACT ? Réponse avec notre invité. Thibault-Louis, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes chargé de recherche au laboratoire de physique des deux infinis Irène Joliot-Curie et premier auteur de l'un des trois articles publiés cet automne qui présente les ultimes analyses des données collectées par ACT entre 2017 et 2022. Alors nous allons parler bien sûr des aspects théoriques dans un instant de ce travail, mais pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter l'instrument ACT, le Atacama Cosmology Telescope ?
Ouais, donc le ACT, c'est un télescope localisé donc au Chili à 5000 mètres d'altitude. Donc c'est un site privilégié pour l'observation astronomique, on est vraiment au-dessus de l'atmosphère, et c'est pour ça qu'on s'est mis là-bas. Et c'est un télescope qui a une particularité, c'est qu'il a une très grande résolution angulaire, et ça parce qu'en fait on a un miroir de 6 mètres, un miroir primaire de 6 mètres. Donc c'est un très grand télescope qui permet en fait des observations très précises du fond diffus cosmologique.
Donc il a été installé dans les Andes, alors il y a beaucoup d'instruments dans les Andes, on le sait, le VLT, des tas d'instruments d'astronomie. Et pour la radioastronomie, parce qu'on est dans le domaine radioastronomique, hein, là c'est important d'être vraiment au-dessus de l'atmosphère, le plus haut possible, je crois.
Exactement, oui. Parce que, en fait, le signal qui va le plus polluer nos mesures, ça sera vraiment l'atmosphère, l'oxygène dans l'atmosphère, l'eau dans l'atmosphère, des choses qu'on aime bien dans la vie de tous les jours, mais qui sont terribles pour les observations astronomiques.
Donc, un instrument installé très haut, qui observait, je crois, dans trois fréquences distinctes, c'est ça, hein?
Oui, voilà. Donc, on observe à 90, 150 et 220 GHz. Alors, ça peut paraître un peu technique, mais c'est important pour nous, justement, pour distinguer qu'est-ce qui vient du fond diffus cosmologique et qu'est-ce qui vient d'autres signaux émis dans l'univers.
Alors, on en parlera tout à l'heure du fond diffus cosmologique et tout ce qu'il faut faire pour accéder à ce rayonnement qui vient vraiment de très très loin ou de très très tôt dans l'histoire de l'univers. Mais ACT, c'est aussi une collaboration internationale. Alors, vous êtes un chercheur français. Je crois qu'il y a plus de 100 chercheurs dans la collaboration. Qui participe à cette manip?
Voilà, donc c'est une collaboration, on va dire, majoritairement américaine, mais sur laquelle sont greffés de nombreux Européens, ne serait-ce parce que des doctorants américains ont ensuite eu un poste en Europe et ont continué à participer à cette manip. Mais c'est globalement une manip américaine avec plusieurs universités américaines sur lesquelles on a une participation, on va dire, restreinte en France. Il y a aussi des gens qui travaillent sur ACT en Angleterre et en Espagne.
Alors, vous nous avez déjà un petit peu dévoilé, évidemment, l'objectif scientifique, on en a parlé, c'est l'observation du fond diffus cosmologique. Mais après Planck, qui était un satellite, hein, rappelons-le, un européen d'ailleurs, installé dans les meilleures conditions possibles pour observer la première lumière de l'univers, on peut se demander, qu'est-ce qu'on pouvait espérer de plus d'un radiotélescope au sol? Pourquoi cet instrument après l'ère des sondes spatiales?
Ouais, c'est une très bonne question. Et justement, en fait, la spécificité du sol, c'est qu'on va pouvoir installer de grands instruments. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ACT, il a un miroir primaire de 6 mètres. Et c'est ça vraiment la différence majoritaire, on va dire, vis-à-vis de ce qu'a fait Planck. On a vraiment une résolution angulaire bien plus grande de ce qu'on peut faire depuis l'espace. Dans l'espace, évidemment, il y a un coût d'envoyer des grands télescopes. Alors qu'au sol, construire des grands télescopes, c'est quelque chose qu'on sait faire. Donc ça, c'est une première spécificité. C'est avoir une plus grande résolution angulaire que Planck pour aller au-delà de ce que Planck a vu. Et l'autre spécificité, c'est le nombre de détecteurs qu'on a dans le plan focal de notre instrument. Avec ACT, on a autour de 6000 détecteurs. Planck avait une centaine de détecteurs. Donc on a l'atmosphère qui est un vrai problème, mais on compense en ayant un grand miroir et énormément de détecteurs.
D'accord, oui, il faut rappeler d'ailleurs que Planck, c'était 1,50 m, je crois, le diamètre de l'instrument. Exactement. Donc là, on est à 6 mètres, c'est 6 mètres, c'est, si je me souviens bien, c'est le diamètre du JWST, donc c'est vraiment un grand instrument qu'on a placé là au sol. Donc vous avez une meilleure résolution angulaire, donc vous voyez le signal avec des détails plus précis, disons, sur cette fameux fond diffus cosmologique. Alors ça fait 3 fois, 4 fois qu'on utilise le terme, il faut peut-être maintenant rappeler ce que c'est exactement. C'est quoi ce fond diffus cosmologique et comment on en tire des informations implications sur la composition, l'âge et même la géométrie de l'univers.
Alors, le fond diffus cosmologique, c'est la première lumière qui a été émise dans l'univers. Alors, on peut se poser la question de pourquoi il y a une première lumière. Mais en fait, pour répondre à cette question-là, il faut revenir dans le passé. Donc, dans les années 30, les astronomes se sont rendus compte que l'univers est en expansion. Et donc, très vite, on s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe si on fait tourner l'horloge en arrière? C'est-à-dire, à quoi ressemble l'univers dans le passé? Et donc, si l'univers est en expansion aujourd'hui, dans le passé, il était plus dense et plus chaud. Au point où, à un certain moment, il va complètement changer d'état physique. Ça ne ressemblera pas du tout à l'univers qu'on connaît aujourd'hui. Mais l'intégralité de cet univers sera sous la forme d'un plasma. Et en fait, les physiciens ont commencé à réaliser ça autour des années 50. À la base, c'était un peu farfelu, elle n'était pas vraiment prise au sérieux dans la communauté scientifique. Mais bon, certaines personnes travaillaient là-dessus. Et à un moment, ils ont même prédit que si l'intégralité de l'univers était sous cette forme de plasma, on devrait voir en fait la trace de ce plasma sous la forme d'une lumière qui serait justement ce fond diffus cosmologique. Et c'est ça le signal donc, qu'on voit, c'est cette première image du plasma que constituait l'univers primordial 380 000 ans après le Big Bang.
Donc on comprend que c'est une sonde absolument fondamentale, parce que 380 000 ans après le Big Bang, c'est phénoménal. Quand on regarde des galaxies, elles sont certes à des milliards d'années-lumière et des milliards d'années dans le passé, on voit des objets très lointains, mais on est toujours à quelques centaines de millions d'années au plus tôt dans la vie de l'univers. Là, on remonte à 380 000 ans. Alors vous avez parlé d'un univers très chaud, primordial, très chaud, donc cette lumière a été émise à haute température, mais aujourd'hui, vous observez dans le domaine radio, c'est des basses énergies. Je crois qu'aujourd'hui, la température moyenne, c'est 2-3 Kelvin, c'est ça?
Oui, exactement. Alors en fait, quand ce signal y était émis, c'était émis à une température de 3000 degrés Kelvin. C'est à peu près la température de la surface du Soleil. Mais en fait, quand ce signal s'est propagé dans l'univers, cette lumière s'est refroidie. Et donc aujourd'hui, on l'observe après 13 milliards d'années, lumière de propagation à une température autour de 2-3 Kelvin, donc 3 degrés au-dessus du zéro absolu.
Et ce qui est extraordinaire, c'est d'ailleurs tout le cœur de l'étude de votre travail. Est-ce que vous avez aussi Planck, est-ce qu'a fait aussi WMAP avant, et puis même Kobe, s'il faut remonter jusque dans l'année 80. Ce qui est formidable, c'est que ce fond n'est pas uniforme, il y a des petites fluctuations. Je crois que c'est 1/100 millième la variation typique de ces petites fluctuations. Et c'est ça qui vous intéresse précisément.
Exactement. Donc d'abord, il fallait découvrir cette lumière-là et montrer qu'elle était homogène, qu'elle était vraiment cette trace de ce plasma dans l'univers primordial. Et très rapidement, on s'est rendu compte que cette homogénéité ne pouvait pas être totale, parce que dans l'univers d'aujourd'hui, on voit bien que dans certains endroits, il y a des galaxies, dans certains endroits, il y a des vides. Et donc, on devrait voir, en fait, dans cette image de plasma primordial, les graines des structures qui vont ensuite apparaître dans l'univers. Et c'est ça ce qu'on observe donc, de façon très précise avec des expériences telles que vous avez mentionnées et avec l'expérience ACT. C'est des petites anisotropies de température de l'ordre de 10-5, donc 1/100 millième, comme vous l'avez rappelé. Et ces petites anisotropies de température, en fait, nous informent sur la distribution de matière dans l'univers primordial et sur la physique de l'univers primordial. Et c'est exactement ce qu'on a essayé de mesurer, enfin, une partie des choses qu'on a mesurées avec le télescope ACT.
On peut peut-être rentrer un peu dans le détail, d'ailleurs. Donc, j'invite nos auditrices et nos auditeurs à regarder l'image qui sera associée au podcast. On voit ce fond diffus, si vous ne l'avez jamais vu. C'est à la fois une image émouvante, parce qu'encore une fois, c'est la première image de l'univers, et en même temps incompréhensible pour le Kidam, parce qu'on voit juste des taches de couleurs qui ont l'air parfaitement aléatoires. Ça vaut peut-être le coup d'expliquer comment vous analysez peut-être ces données, parce que là où moi je ne vois que du bruit, de l'aléatoire, vous voyez des choses très précises, et encore une fois vous allez arriver à en tirer des conclusions sur non seulement la composition de l'univers mais aussi sa vitesse d'expansion, voire sa géométrie. Comment vous faites?
Vous avez raison de rappeler que c'est aléatoire, parce qu'en fait la physique qui a vraiment généré ces premières perturbations dans l'univers, donc les premières, on va dire, les premières graines où là où il y aura une galaxie, il y aura un vide, c'est en fait de la physique qui est complètement aléatoire. On pense que c'est des fluctuations quantiques d'un champ qui aurait pris place au tout début de l'univers. Donc l'aléatoire, il est vraiment dans l'image que vous voyez. Ce que vous voyez, c'est, ça a l'air aléatoire, mais c'est aléatoire. Par contre, il y a quand même de la physique dedans. Et notamment, il y a de la physique sur la taille de ces anisotropies. Vous voyez qu'il y a quand même une taille qui a l'air d'être privilégiée. Et c'est justement en mesurant précisément la taille de ces anisotropies qu'on arrive à comprendre des choses sur la distribution de la matière dans l'univers. En fait, très simplement, on peut penser que ces espèces de grosses taches rouges ou grosses taches bleues correspondent à des structures dans l'univers primordial et que ces structures ont une certaine taille qui, elle, est fixée par la physique de l'univers primordial.
Alors, vous avez fait ce travail d'analyse très, très, très pointu, très nouveau, avec une précision, encore une fois, meilleure que Planck pour les petites échelles. Et ce qui est frappant, c'est que vous trouvez la même chose que Planck, finalement. C'est-à-dire que le modèle, l'image de l'univers qu'on peut se faire après les observations cosmologiques de ce satellite, finalement, vous retrouvez la même chose. L'univers que vous décrivez, c'est le même que Planck. Alors, d'abord, est-ce que c'est ce que vous espériez?
Ah bah alors là, on essaye justement de ne pas avoir de biais là-dessus. C'est-à-dire que quand on fait l'analyse des résultats cosmologiques, on essaye de faire une analyse à l'aveugle, donc pour ne pas se faire influencer justement par les résultats de nos collègues et prédécesseurs. Donc on n'a jamais regardé en fait les vrais résultats cosmologiques avant la fin de l'analyse. On a déjà fait toute l'analyse, on n'a jamais regardé les résultats sur la valeur des paramètres qu'on peut directement comparer avec celle de Planck. Simplement, à la fin de l'analyse, on a en fait désaveuglé l'analyse, on a regardé la valeur des paramètres. Donc, c'est difficile à dire. Je ne sais pas si je suis content ou pas content. Simplement, l'univers a l'air de dire que qu'on mesure depuis l'espace avec le satellite Planck ou qu'on le mesure depuis le désert d'Atacama avec un grand télescope qui est aussi plus sensible à la polarisation, on pourra peut-être y revenir, on trouve la même valeur, notamment sur le taux d'expansion de l'univers.
Donc ça, c'est extrêmement important. Justement, cet accord sur la valeur du taux d'expansion de l'univers, elle est assez fondamentale puisque... Pour rappel, il y a un débat maintenant vieux de plusieurs années, je pense peut-être plus de 10 ans maintenant, sur cette fameuse valeur du taux d'expansion. C'est quand même important à quelle vitesse l'univers s'étend. Il y a des valeurs qui sont tirées des observations de l'univers lointain, comme celle d'ACT, qui se tourne autour de, on va dire, 60, alors je ne vais pas être trop technique, 68 km par seconde par mégaparsec, c'est-à-dire que chaque seconde, l'univers, un cube de 1 mégaparsec d'univers s'étend de 68 km, on peut leur dire ça comme ça, c'est peut-être une façon de le dire.
Ouais, moi ce que j'aime bien dire, c'est que bon, donc toutes les galaxies s'éloignent les unes d'entre elles, et en fait ce que ça veut dire, c'est que deux galaxies qui sont séparées d'un mégaparsec s'éloignent à une vitesse de 68 km par seconde. Je trouve que l'image est encore plus
parlante. En tout cas, cette fameuse valeur donc, qui est celle de Planck et que vous confirmez avec ACT, n'est pas celle qu'on peut déduire d'observations d'objets plus proches, notamment les supernovées, on les appelle les supernovées lointaines, mais c'est quand même un univers plus proche que celui que vous sondez vous. Donc il y a un même univers et pourtant deux taux d'expansion différents selon la manière dont on les mesure. Donc vous êtes dans le camp, on va dire, Planck d'une certaine manière. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce hiatus qui reste, qui est toujours là, quoi, que vous consolidez même?
Oui, c'est une grosse interrogation, hein, parce que donc évidemment, il y a deux mesures aujourd'hui. Il y a une mesure qui est vraiment directe, celle basée sur les supernovées, telle que vous l'avez indiqué, où vraiment on mesure à quelle vitesse s'éloignent des objets à une certaine distance. On arrive à mesurer leur vitesse, on arrive à mesurer leur distance, donc on obtient ce taux d'expansion de l'univers. Donc c'est vraiment très très direct, leur façon de faire. Et nous, en fait, c'est finalement très indirect. Nous, ce qu'on fait avec le fond diffus cosmologique, c'est qu'on arrive à mesurer de quoi l'univers est fait. Et comme vous savez, depuis la théorie de la relativité générale d'Einstein, on sait que si on connaît le contenu de l'univers, on va pouvoir prédire son évolution. Et donc, on va pouvoir prédire quel devrait être le taux d'expansion aujourd'hui. Et c'est ces deux mesures qui sont en désaccord. Si on avait tout compris sur la cosmologie, et si toutes les mesures étaient correctes, ces deux mesures du taux d'expansion devraient être en accord. Or, ce n'est pas le cas. Et pour ça, il y a trois options. Soit la mesure directe est fausse, soit la mesure faite par le satellite Planck est fausse, soit il faut de la nouvelle physique. Ce qu'on a fait avec les résultats ACT, c'est qu'on a montré que l'option 2 était défavorisée. Avec ACT, une expérience complètement indépendante d'autres observables, on retrouve exactement le même résultat que Planck. Donc l'option 2 n'est pas possible. Donc il reste deux options, une mesure directe qui serait fausse ou alors de la nouvelle physique dans l'univers.
Alors oui, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, le portrait de l'univers, il faut peut-être dire rapidement qu'il y a un modèle qui est... gouverné par quelques paramètres. Il y en a combien, 8, 9
Alors, il y en a 6 dans le modèle standard, c'est ce qu'on appelle le modèle lambda-CDM. Ouais.
Donc, 6 paramètres que vous mesurez d'une certaine manière grâce à vos observations. Et ce modèle, si on le fait tourner, c'est un peu ce que vous avez dit, si on fait avancer dans le temps, on arrive à un taux d'expansion aujourd'hui, et ce taux d'expansion n'est pas celui qu'on mesure avec les supernovées par hasard.
Exactement. En gros, l'extrapolation entre notre image de l'univers primordial, donc ce qu'on observe avec nos télescopes, jusqu'à la physique que devraient en fait ressentir donc les galaxies aujourd'hui, fonctionne pas. À un moment, il y a quelque chose qui casse, qui fait qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur quel devrait être le taux d'expansion aujourd'hui.
Alors c'est intéressant parce que s'il n'y avait que ce problème ou que cette tension, vous parlez de tension en cosmologie, hein, s'il y avait que ça, à la limite... je pense que ce serait quand même un sujet très important, mais il y en a d'autres. Je crois que quand on regarde, par exemple, le taux de concentration de la matière, selon la façon dont on le mesure, ou encore la façon dont l'expansion de l'univers s'est accélérée ou pas, là aussi, il y a des résultats nouveaux qui montrent que bon, c'est peut-être pas aussi simple qu'on l'avait cru l'imaginer. Il y a des petites choses qui ont l'air de pas fonctionner, qui collent pas selon, encore une fois, comment on mesure les choses. Donc, il y a plusieurs extensions qui ont été proposées à ce fameux modèle standard pour expliquer un petit peu tous ces hiatus. Et vous, deuxième résultat fondamental, à mon avis, d'ACT, c'est vous montrer que parmi toutes ces extensions qui ont été imaginées par les théoriciens, il y en a plusieurs que vous éliminez complètement avec vos données.
Oui, en tout cas, elles ne sont vraiment pas favorisées par nos données. Donc ça, c'était la grande interrogation. C'est est-ce qu'on aurait trouver justement cette nouvelle physique dans l'univers primordial qui permettrait par exemple de réconcilier ces deux mesures de taux d'expansion de l'univers. Et donc c'est vraiment là-dessus que nos résultats étaient le plus attendus, parce qu'on a, en allant de façon plus profonde, donc de mesurer les petites échelles angulaires, en mesurant aussi la polarisation du fond diffus cosmologique de façon plus précise, on se serait attendu que si une de ces extensions était vraie, on aurait potentiellement pu la détecter. Or ça n'a pas du tout été le cas. À chaque fois, toutes nos mesures ont vraiment montré la même chose. L'univers décrit par le modèle standard de la cosmologie, donc le modèle lambda-CDM, fonctionne très bien pour décrire à la fois les données Planck et à la fois les données ACT. Alors après, si on essaie d'extrapoler nos mesures à plus bas redshift, donc dans l'univers plus récent, c'est là où on commence à voir des petites craquelures apparaître.
Donc finalement, vous êtes extrêmement conservateur, on va dire. Enfin, je ne sais pas si vous dire conservateur, conservatif. En tout cas, vous êtes vraiment sur la ligne Planck, la ligne standard en fait de la cosmologie. Ça veut dire que vous laissez à d'autres le soin de comprendre quel problème.
Alors, c'est pas une question d'opinion. Hein. C'est vraiment nous, comme je vous ai dit, on adorerait trouver la nouvelle physique. Simplement, on a fait l'analyse de la façon la plus sérieuse possible, et il se trouve que nos données fitent très bien avec le modèle standard de la cosmologie. Par contre, c'est vrai que si maintenant on essaie d'ajouter à nos données, bah, par exemple, les mesures qui ont été faites par le télescope DESY, qui observe la distribution des galaxies, ou les mesures qu'on vous a rappelées de taux d'expansion de l'univers, là, on voit des petits désaccords. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il faut quand même rappeler la taille de ces désaccords, parce que le modèle standard de la cosmologie lui-même, finalement, est quand même très prédictif et marche très bien. Ça marchait très bien quand on avait une incertitude de 5% sur les paramètres, ça marchait très bien quand on avait une incertitude de 3% sur les paramètres. C'est vraiment quand on essaie de faire des mesures les plus précises possibles, donc en dessous de la pression du pourcent, qu'on voit des petits départs. Mais il faut aussi se rappeler que c'est aussi pour ça qu'on fait nos observations. On essaie d'être de plus en plus précis parce qu'on s'attendait à ce que justement, s'il y a de la nouvelle physique, ça ne serait pas quelque chose de brutal, de quelque chose de vraiment évident, ça serait quelque chose justement à chercher en dessous du pourcent. Donc nous, ce qu'on essaie, c'est vraiment d'être le plus précis possible, le moins biaisé aussi idéologiquement, c'est-à-dire on n'essaie pas de dire on va absolument trouver de la nouvelle physique, mais aussi rester très ouvert justement et essayer de voir si nos données préfèrent la nouvelle physique ou pas. Il se trouve que ce n'est pas le cas quand on prend juste les données ACT, mais ça devient le cas quand on rajoute les données d'autres expériences. Et ça, c'est quand même un peu ça aussi, la cosmologie. La cosmologie, il faut combiner différents jeux de données pour atteindre l'interprétation. C'est-à-dire la physique de l'univers primordial et la distribution des galaxies sont très liées les unes avec les autres. Et c'est seulement quand on va combiner l'ensemble de ces mesures qu'on va peut-être voir émerger de la nouvelle physique.
Alors, dans ACT, vous avez prononcé le mot, il y a ce fameux mot de polarisation. Donc, on comprend bien que les fluctuations qu'on voit à l'œil sur les cartes classiques, entre guillemets, du fond diffus, je crois que ce sont des fluctuations de température, hein, c'est
exactement,
ça. Donc, on a
voilà.
des petits écarts, encore une fois, de 1/100 millième de Kelvin, donc trois fois rien. Vous avez aussi observé la polarisation du rayonnement. Alors ça, c'est peut-être un peu plus technique. Qu'est-ce que c'est que la polarisation du rayonnement ?
Ouais. Alors donc quand on analyse une lumière, il y a deux paramètres très importants. L'intensité de la lumière, et en fait, c'est à partir de ça qu'on va deviner sa température. Là, c'est vraiment le nombre de photons qui va arriver par unité de temps, donc combien de photons on va avoir par seconde, par exemple. Et ça, c'est l'intensité de la lumière. Et donc c'est à partir de ça qu'on refait ces cartes de température. Intensité et température, c'est la même chose pour nous. Par contre, la polarisation, en fait, ça va être une direction d'oscillation du champ électromagnétique. Vous savez, la lumière, c'est un champ électromagnétique, et ce champ électromagnétique peut osciller dans une direction privilégiée. Et c'est ce qu'on essaie de mesurer quand on mesure la polarisation du fond diffus cosmologique, c'est cette direction d'oscillation du champ électromagnétique. Et pour ce faire, c'est simple, on a des petits polariseurs, on a des petits détecteurs polarisés sensibles à une direction de polarisation, et c'est eux qui nous disent, en fait, s'il y a une direction privilégiée dans la lumière qui vient du fond diffus cosmologique.
Et alors, quelle information tirez-vous ? Alors, pourquoi c'est important d'avoir cette information en plus ? Planck l'avait pas, par exemple ?
Planck l'avait, mais de façon très bruitée, très peu détaillée. En fait, vraiment, avec ACT, c'est la première fois qu'on a une mesure qu'on appelle dominée par le signal, c'est-à-dire pas dominée par le bruit, en gros, sur une grosse partie du ciel. On a les premières fois une très grande carte de polarisation. Et quand je veux dire dominée par le signal, ce que ça veut dire, c'est que si quelqu'un refaisait cette carte dans 1000 ans, il verrait exactement la même chose. Donc maintenant, les problèmes de bruit instrumentaux, en fait, sont invisibles sur cette carte-là. C'est ça, vraiment, peut-être le résultat le plus intéressant de notre analyse, c'est cette carte de l'univers primordial, de la polarisation de l'univers primordial.
Qui n'est pas pollué par des bruits instrumentaux quelconques ou autres. En revanche, j'imagine qu'il y a eu un gros travail sur les avant-plans, les fameux avant-plans. Quand on observe en ondes radio l'univers, on observe évidemment non seulement le fond diffus, mais pas que. Il y a beaucoup de choses qui émettent ou qui même bruitent le signal. J'imagine de 380 000 ans après le Big Bang à aujourd'hui, il s'est passé des choses.
Exactement. Et c'est d'ailleurs un des intérêts d'observer la polarisation, parce que la plupart de ces avant-plans, donc on connaît leurs propriétés physiques, sont très peu polarisés. C'est-à-dire que finalement, quand on fait des observations en polarisation, on est beaucoup moins contaminé justement par les signaux qui viennent de notre propre galaxie, par exemple, ou d'objets extragalactiques qui vont typiquement contaminer nos mesures en intensité ou en température. Ouais.
Alors, donc là, c'était, je crois, le Data Release 6, c'est-à-dire que c'est la sixième étape de publication, mais c'est aussi la plus achevée. Est-ce qu'il y a d'autres analyses qui sont prévues ou est-ce que ça clôt vraiment le projet ACT, cette publication, ces trois publications de l'automne?
Oui, il y avait quand même un petit aspect, peut-être enterrement dans ces publications, d'un certain sens, ou hommage, parce qu'en fait, le télescope ACT a maintenant été retiré du désert d'Atacama. Il a été remplacé par un nouvel observatoire, Simons Observatory, on pourra peut-être en parler un petit peu. Mais en tout cas, ACT, c'est vraiment fini à partir de... En 2022, en fait, on a retiré le télescope pour justement construire un nouvel observatoire plus précis. Donc cette Data Release 6, ça sera vraiment la dernière release de données du télescope.
C'est la fin du projet. Exactement. Et est-ce qu'il y a des développements attendus? Enfin, pour vous, quelle est la suite, en fait? Parce qu'en général, quand on fait de la recherche, évidemment, on s'arrête pas à ce qu'on vient de faire. On a déjà des idées pour la suite. C'est quoi la suite de ce projet? Est-ce qu'un télescope plus grand? Enfin, qu'est-ce qui peut être la suite d'ACT?
Ouais, alors donc justement, donc on a construit cette nouvelle observatoire à la place d'ACT. Enfin, pendant qu'ACT prenait des données, en fait, les chercheurs étaient en train de construire dans leur laboratoire un nouvel instrument plus sensible, ce qui s'appelle donc Simons Observatory, qui ne sera pas constitué d'un seul télescope, il sera constitué de 7 télescopes. Et pour vous donner un ordre de grandeur, on s'attend à ce que les télescopes de cet observatoire soient 10 fois plus sensibles que le télescope ACT. C'est-à-dire une année d'observation avec Simons Observatory, ça correspond à 10 années d'observation avec le télescope ACT. Et on pense vraiment que là, on va aller dans un domaine de précision qui nous permettra vraiment, si vraiment il y a de la nouvelle physique dans l'univers, là, vraiment ça devrait apparaître avec ces mesures de Simons Observatory.
Parce que oui, un an vaut 10 ans d'ACT, et ACT, vous n'avez observé que 5 ans, si j'ose dire.
Donc, exactement.
Il y a encore beaucoup de choses à faire. Ça veut dire que la cosmologie, depuis le sol, c'est tout à fait possible, en fait. On n'a pas nécessairement besoin systématiquement d'envoyer quelque chose dans l'espace.
C'est possible, évidemment, de faire la cosmologie depuis le sol. C'est assez synergique. En fait, si on n'avait que le sol, il nous manquerait vraiment de l'information. Si on n'avait que l'espace, il nous manquerait aussi de l'information. À part à envoyer des télescopes immenses, vous avez cité JWST, mais qui sont des projets à 20 milliards, donc c'est quand même très difficile à faire financer. Et donc, en fait, cette approche jointe sol et espace, où en fait, ce qu'on met au sol essaie d'être synergique avec ce qu'on peut faire de l'espace. Donc, dans l'espace, on va faire des grandes échelles, par exemple angulaires, très peu contaminées par l'atmosphère parce qu'on est dans l'espace, donc tout va très bien. Et au sol, on va faire les petites échelles angulaires avec des grands télescopes. Donc, ces deux approches, en fait, sol et espace, sont vraiment synergiques. C'est comme ça qu'on fait vraiment la meilleure physique possible.
Et finalement, je vais vous demander un pari, c'est compliqué, mais grosso modo, d'où peut sortir la solution? Parce que finalement, au jour d'aujourd'hui, on est toujours au même point, enfin, sauf qu'on a un peu plus confiance dans les données de l'univers primordial après ACT. Mais en ce qui concerne les fameuses tensions, on n'a pas bougé, au contraire, on s'est même un peu plus installé qu'on ne l'était.
Je pense que ce qui est le plus intéressant à voir dans le futur proche, ça sera les nouvelles données, les nouvelles analyses de l'expérience DESY, parce que c'est quand même... Je mets H0, la constante de Hubble, un petit peu de côté.
Le taux d'expansion de l'univers.
C'est le taux d'expansion de l'univers, parce que c'est des analyses vraiment très spécifiques. Il y a globalement une équipe qui fait ça, il y a des équipes qui essaient de vérifier, mais c'est vraiment des systématiques expérimentales très, très complexes, c'est une calibration très complexe. Donc en mettant de côté ce résultat, c'est-à-dire, je ne dis pas que je ne crois pas, simplement il y a des gros doutes autour de ce résultat. Un autre résultat important, c'est le résultat de DESY, donc sur la destruction de galaxies, qui n'est pas tout à fait en accord avec ce qu'on aurait prédit à partir de nos mesures du fond diffus cosmologique. Et eux, ils continuent à observer, ils continuent à compléter leur survey du ciel. Et on s'attend à de nouveaux résultats d'ici un an ou deux. Et moi, vraiment, c'est les résultats que j'attends le plus, parce que en fait, le départ qu'on voit vis-à-vis de notre modèle cosmologique, il est aujourd'hui avec ce qu'on appelle une... statistical significance, je ne connais pas le mot français, mais c'est pas quelque chose où on peut annoncer une découverte.
Vous ne mettrez pas votre main à couper.
Exactement, on n'a pas des barres d'erreur qui sont suffisamment petites pour être sûr que c'est quelque chose d'extrêmement solide. Mais par contre, avec les dernières données justement de ce télescope DESY, avec aussi les données du télescope Euclide, qui aussi regarde les galaxies à plus haut redshift, peut-être qu'on aura vraiment une vision plus claire de ce qui se passe sur la formation des galaxies, la taille des structures justement dans ces destructions de galaxies.
Très bien, mais écoutez, merci infiniment Thibault Louis d'être venu présenter les résultats du Atacama Cosmology Telescope au micro de Ciel Espace. Décidément, il reste beaucoup de choses à comprendre sur la nature profonde de notre univers. Ce podcast s'achève, il était réalisé par Nicolas Franco et présenté comme chaque mois par David Fossé. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une émission où il sera à nouveau question de l'Atacama, mais cette fois-ci nous parlerons de météorites. D'ici là, profitez de notre nouveau site web qui doit être entièrement remanié avant la fin de ce mois de janvier. Et à très bientôt à toutes et à tous.